Une fête de famille un peu particulière demain au château Hagen. Les descendants de Jean Taragna se retrouvent pour une cousinade qui devrait rassembler 200 personnes. Un acquittement aux assises, c'est rare, c'est arrivé hier soir. Le doute et les zones d'ombre du dossier ont profité à l'homme de 66 ans qui comparaissait pour avoir tué son gendre en 2021 à Ouégoua. Le jeu vidéo calédonien Chia poursuit sa belle trajectoire. Il est nominé dans la catégorie « Jeux avec un impact » pour les prochains Game Awards. En métropole, le sénateur Joël Guerriau est en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir drogué une députée dans le but de l'agresser sexuellement. Et puis en sport, nous retrouvons notre envoyé spécial aux Jeux du Pacifique, Morgan Boucher. Il nous parlera des premières épreuves qui débutent aujourd'hui pour les Cagous avec au programme du tennis, du football et du volley. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Avant de développer ces titres, rendez-vous pour le magazine Transparence à la fin de cette édition. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Avec cette semaine pour inviter Gilbert Thuyénon.
Oui, Gilbert Thuyénon, il est membre du gouvernement, maire de Canala, mais aussi premier vice-président de l'Union calédonienne. Et c'est surtout à ce titre que nous l'interrogerons au lendemain des congrès des composantes du FLNKS. Quelle va être l'attitude de l'UC dans les prochaines semaines? Va-t-elle rencontrer Gérald Darmanin? A-t-elle travaillé sur le document martyr? Nous interrogerons également Gilbert Thuyénon en tant que membre du gouvernement en charge de la fiscalité sur la situation économique et sur les réformes engagées. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie de Gilbert Thuyénon, juste après votre journal Jean-François.
Et on vous retrouve à 16h45 cet après-midi pour le Club Politique.
Et au sommaire, bien sûr, le bilan des congrès indépendantistes, celui de l'UC, du PALIKA et de l'UPM. Nous reviendrons aussi sur la réponse de la Première ministre à Philippe Dunoyer, qui l'a interrogé lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Et puis nous nous intéresserons à la querelle de chiffres autour de la réforme du ROAM, un club politique qui débute à 16h45 et qui est rediffusé demain
à 11h sur Radio Rythme Bleu. Et pour ouvrir ce journal, parlons de cet anniversaire qui sera célébré demain au château Hagen. Les descendants de Jean Taragna fêteront les 180 ans de l'arrivée de leur ancêtre sur le territoire, comme ils l'avaient d'ailleurs fait pour les 150 ans, Nicolas Legrand.
Un lieu symbolique, chargé d'histoire pour ces familles calédoniennes, puisque c'est en 1863, soit 20 ans après son arrivée à Mahamat avec Mgr Douart, que Jean Taragna achète cette propriété sur laquelle il projettera de construire une grande demeure. Il décédera avant de voir sortir de terre ce qui deviendra le château Hagen. Demain, 220 personnes seront donc réunies pour se souvenir des histoires de famille, des plus anciennes aux plus récentes. Marie-Annick Coursin s'affairait ce matin pour que tout soit parfait demain, car pour elle, il est important que cette histoire et cet héritage familial soient conservés.
Jean Taragna, qui était arrivé comme frère mariste, qui finalement a été défroqué, eu deux filles, et d'où les familles qui se sont installées ici en Nouvelle-Calédonie. C'est un événement privé, c'est une ambiance de retrouvailles, de famille, etc. À l'arrivée, on fait une petite bénédiction religieuse, et puis ensuite on va faire des photos par groupe de famille, justement, d'où l'intérêt de ces couleurs. Les Lobreaux en rouge, les Haigen en vert, les Larocque en blanc, les Coursins en rose. Les Millards en bleu, Pelletier, on a un cousin qui est diacre en Australie qui va venir pour célébrer une petite bénédiction avec le père Apikawa, il sera habillé en jaune. Et puis quatre jeunes femmes de la cinquième génération vont faire un exposé historique en posant un peu des questions pour essayer de faire participer les uns et les autres sur qu'est-ce que c'est qu'une cousinade, qu'est-ce que c'est qu'être cousin aujourd'hui dans ce monde moderne. Et puis il y a un jeu quiz également sur papier avec des lots, on a vraiment hâte.
Et à l'occasion des 180 ans de l'arrivée de Jean Taragna, les familles vont se mobiliser également pour restaurer la tombe de leur aïeul.
On a fait un appel à dons, effectivement, pour rénover la sépulture, qui est au 4e kilomètre. En fait, Jean Taragna y est enterré avec son épouse, à côté du caveau de la famille Guiraud de Lévisac, qui était la famille d'une des filles de Jean Taragna. C'est un caveau avec des grilles autour, donc en fait, il faut rénover un peu les grilles. Et puis, il a subi, lors d'un cyclone, je crois, un yaouli est tombé sur la croix, etc. Donc, il va falloir qu'on remette aussi ces éléments-là. Enfin, bon, rénovation totale, quoi.
Et pour vous, c'est important de rendre hommage et de continuer à conserver cette mémoire de votre ancêtre?
Très important, parce qu'on a vraiment été tous élevés dans cet état d'esprit, en fait, avec nos parents. Hein, on venait jouer au château Hagen avec les cousins. Chaque semaine, c'était le goûter dans les jardins. Donc oui, et on espère. Moi, par exemple, je suis de la 4e génération. Et en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment la transmission de mémoire à la 5e génération pour qu'ils aient envie de continuer à faire ce qu'on a essayé de créer et d'installer.
Et pour transmettre l'histoire de Jean Tarania aux nouvelles générations, les familles ont donc fouillé leurs albums photos. Un vrai travail d'historien pour reconstituer certains éléments de sa vie. Et ces photos seront donc affichées demain lors de cette grande cousinade.
Et en raison de cet événement privé, le château Haguen sera exceptionnellement fermé au public demain. Justice, pour revenir maintenant sur ce verdict très rare. L'homme de 66 ans qui comparaissait hier devant la cour d'assises de Nouméa pour coup mortel a en effet été acquitté. En février 2021, à Ouégoua, cet homme de 66 ans avait été accusé d'avoir jeté un tamioc en direction de son gendre, 36 ans, qui était ivre, lorsqu'il a rendu visite à son ex-compagne avant de l'importuner. L'accusé a reconnu son geste, mais l'affaire ne s'arrête pas là, Gilles Ménage.
Oui, car sur cette arme et sur la blessure qu'elle aurait occasionnée pesaient des doutes sérieux, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'y avait pas de témoin. Et l'accusé a toujours affirmé d'ailleurs qu'il n'était pas très sûr d'avoir touché la victime. Le médecin légiste lui-même a émis de sérieux doutes dans son rapport, pas sûr en effet qu'un tamioc ait pu perforer une artère fémorale. C'est l'origine du décès. L'hypothèse d'un couteau, dès lors, n'a pas été écartée. Celle d'un autre auteur des faits ne l'a pas été non plus. Le verdict de la cour d'assises est donc logique pour l'avocat de l'accusé, maître Thomas Gruet.
Il y avait beaucoup de zones d'ombre. Jean-Paul Tenery a avoué avoir jeté un tamioc le soir des faits, mais on ne sait pas si le tamioc a touché la victime. Et lorsque des investigations scientifiques ont été réalisées par la suite, il semblerait que le tamioc ne soit pas à l'origine de la mort de la victime. En fait, lorsqu'on regarde la plaie, le médecin légiste a constaté que cette plaie correspondrait à un couteau. Sauf que mon client a avoué lancer un tamioc. Donc cette hypothèse ne fonctionnait pas.
Évidemment, les décisions d'acquittement sont extrêmement rares en cour d'assises. Celle-là était logique et le doute profite à l'accusé ?
C'est exact. C'est la raison pour laquelle mon client a été acquitté. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune preuve qui permettrait de démontrer sa responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés.
L'accusé avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire après avoir purgé 16 mois au camp Est. Il risquait 15 à 20 ans de réclusion pour coup mortel avec arme. Le ministère public en avait réclamé 8. Hier, il est donc ressorti libre du palais de justice. Notez que depuis l'introduction par le législateur en 2001 de la possibilité de faire appel d'un verdict d'assises, le parquet a lui aussi cette possibilité. Mais les condamnations en appel d'un acquitté en première instance sont elles aussi très rares. Elles n'ont concerné que 76 personnes au total en 3 ans sur l'ensemble du territoire national.
Les faits divers toujours, et après l'usage du téléphone au volant en journée, les gendarmes ont contrôlé hier soir le taux d'alcoolémie des conducteurs à Dumbéa, près du centre aquatique. De 21h à 23h, les gendarmes, la police municipale et la douane ont contrôlé un peu moins de 250 véhicules. Bilan, 12 usagers avaient une alcoolémie positive, dont 6 étaient délictuels. 5 voitures ont été contrôlées avec des stupéfiants à bord. 2 défauts de permis de conduire et quelques défauts d'assurance ou encore de carte grise ont également donné lieu à des verbalisations. La Chambre territoriale des comptes célèbre aujourd'hui ses 35 ans d'existence sur le territoire et à cette occasion, Gilles, une audience solennelle sera présidée dans une heure par le procureur général près la Cour des comptes, Louis Gauthier, qui est venu spécialement de Paris et il était ce matin notre invité.
Louis Gauthier est le numéro 2 de la Cour des comptes et en tant que procureur général, il instruit les enquêtes et recommande les éventuelles sanctions liées au mauvais usage des fonds publics. Énarque et docteur en sciences politiques, Louis Gauthier a notamment été collaborateur de Jack Lang au ministère de la Culture et de Pierre Joxe au ministère de l'Intérieur, puis de la Défense, avant d'être nommé secrétaire général à la Défense par le président François Hollande. C'est la première fois que Louis Gauthier vient en Nouvelle-Calédonie, à l'occasion donc des 35 ans de la CTC, installée à la suite de la signature des accords de Matignon en 1988, l'occasion de redire que la vocation de la Chambre, qui a évolué vers plus de transparence vis-à-vis du public ces dernières années, reste bien l'impartialité de ses rapports.
La Chambre, que ce soit à destination des élus, mais de tous les citoyens. Désormais, comme la Cour des comptes et les autres chambres publient l'intégralité de leurs rapports. Et donc, on le voit bien dans la situation de la Nouvelle-Calédonie sur la soutenabilité de l'effort budgétaire, sur le niveau d'endettement des collectivités locales, sur les difficultés de la filière nickel, sur les risques de cessation de paiement des caisses de retraite, sur le déficit structurel du régime d'assurance maladie. La Cour donne un point de vue, et ce point de vue est d'autant plus écouté qu'il apparaît objectif, parce qu'il est à la suite d'une enquête, qui écoute tout le monde. On a l'habitude de dire qu'on instruit à charge et à décharge. Et voilà, c'est une position qui est utile. C'est pas la position d'une institution, c'est pas la position d'une expertise privée, c'est la position d'un organisme indépendant.
Les recommandations émises par la Chambre sont les fruits des enquêtes menées par les magistrats, mais elles tiennent compte aussi, bien sûr, du contexte local et c'est le cas notamment en Calédonie en raison du processus institutionnel en cours.
C'est un contexte qui est marqué par le 35e anniversaire, mais il est marqué, évidemment, et c'est important pour le territoire, par les discussions en cours, qui reprennent, qui sont suspendues, qui sont en cours de nouveau. Il y a toujours besoin d'un arbitre financier, il y a toujours besoin de quelqu'un qui dit, quelle que soit la nature de la responsabilité, la distribution des compétences, des délégations de compétences, malheureusement, les problèmes que j'évoquais tout à l'heure resteront les mêmes, quelles que soient les évolutions. Et donc, la question qui se pose, c'est... quelles sont les recettes qu'on met au regard de ces dépenses, de ces difficultés financières? Et d'ailleurs, un des derniers rapports de la Cour porte justement sur la courbe de prélèvements fiscaux et la soutenabilité de la possibilité d'accroître ou non les impôts pour revenir à meilleure fortune dans certains équilibres budgétaires.
Au cours de l'audience solennelle d'aujourd'hui, le procureur général Louis Gauthier présentera par ailleurs un nouveau dispositif qui entrera en vigueur sur l'ensemble du territoire national le 1er janvier prochain. Il s'agit d'un nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics qui permettra de contrôler et sanctionner éventuellement les infractions au bon usage des fonds publics.
Et vous pouvez bien sûr retrouver cette interview en audio et vidéo sur notre site internet. 11h41, une pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Envie de fruits et légumes? Pommes, kiwis, oranges, bananes, choux, carottes, céleri? Retrouvez vos bons plans du week-end dans vos supermarchés Auchan Michel-Ange et Auchan Savannah. Et si faire vos courses redevenait un plaisir? Chez Auchan, vous aimerez de plus en plus faire vos courses.
Auchan, avec plaisir.
Casino de Nouméa.
Réveille la chance.
Le Café Del Paps vous propose une cuisine bistrot de caractère et instinctive, composée de produits frais rigoureusement sélectionnés pour ravir vos papilles. N'attendez plus, un seul endroit. Le Café Del Paps, 6 rue Diego Sanui, à côté de la clinique Quindomanien. Téléphone 24 69 99.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. La suite de l'actualité en Calédonie est dans le cadre de ces animations autour de la Journée mondiale du diabète. L'Agence sanitaire et sociale organisait aujourd'hui une matinée de sensibilisation avec des lycéens et des collégiens à la maison de la famille de Rivière-Salée, Isabelle Pelletier.
Oui, des élèves de première du lycée Petro Atiti ont organisé avec leurs professeurs et le concours de la SSNC trois ateliers à l'attention de leurs jeunes camarades de 5e. Un atelier goût, où l'on apprend à cuisiner sans sucre, un atelier des relaxations, gestion du stress et un atelier activité sportive. Pour le docteur Dominique Mégraoua, responsable du programme diabète de l'Agence sanitaire et sociale, il est nécessaire de promouvoir la santé dès le plus jeune âge.
Ces jeunes, c'est le moment où ils vont acquérir de bonnes ou de moins bonnes habitudes de santé, en termes de mode de vie notamment. Vous savez que 90% des maladies surviennent du fait de mauvais modes de vie. Donc qu'ils apprennent les choses avec le soutien de l'agence sanitaire, puis qu'ils délivrent des messages à leur père, c'est-à-dire à leurs camarades du collège et du lycée, c'est une très belle chose. Ils ont proposé des alternatives au sucre avec des boissons aromatisées, la réalisation de gâteaux sans sucre en remplaçant avec des fruits notamment. L'activité physique, c'est très important. C'est très important pour rester en bonne santé, pour le cœur, pour les artères. Et puis le stress va faire stocker plus de graisse par deux phénomènes. La sécrétion de cortisol. Et puis quand on est stressé et qu'on n'est pas bien dans sa tête, eh bien on va se tourner vers moins d'activité physique et puis vers des aliments réconfort qui sont mauvais pour la santé parce que trop sucrés, trop salés, trop gras ou plein d'additifs.
Cassidy est élève en première ASSP, accompagnement soins et services à la personne au lycée Petro Atiti, et donc l'une des organisatrices de l'événement. Et Shannon et Adnan sont en classe de 5e. Ils ont participé à ces différents ateliers où ils ont donc aussi appris à préparer des eaux aromatisées pour remplacer les boissons sucrées dont ils sont malheureusement friands.
Il y a l'activité pour le stress, en gros c'est de la détente. Ils vont répondre à quelques questions et après ils vont se relaxer. Après il y a l'activité alimentaire où ils vont goûter des choses qui sont faites à base de autre chose que du sucre. Et après il y a nous, l'activité physique. C'est très important de faire attention à ce qu'on mange. Après il ne faut pas être trop stressé parce que ça provoque aussi le diabète. Et c'est important d'avoir aussi une bonne forme physique.
On travaille sur le diabète, on fait des activités pour savoir ce qui est bon à manger, ce qui n'est pas bon pour le diabète, et voilà.
Je bois beaucoup de boissons sucrées.
Tous les jours, je prends une boisson sucrée. Après, je vais au collège. Ici, je me suis relaxée. Il ne faut pas trop consommer de sucre.
Le diabète représente un problème de santé publique majeur en Nouvelle-Calédonie avec plus de 15 000 patients, dont 95% sont atteints de diabète de type 2, qui est donc évitable avec une bonne hygiène de vie. L'accent a été mis cette année sur l'activité physique et la gestion du stress.
Enercal continue à déployer dans les îles son projet 100% renouvelable. Marais inaugure aujourd'hui son écosystème à la centrale Enercal de Tadine. Concessionnaire de la distribution publique d'électricité sur l'île des Pins, Marais et Ouvéa, Enercal accompagne la transition énergétique de ces communes. À travers le projet 100% renouvelable sur les îles, elle prévoit d'alimenter les habitants avec une électricité 100% renouvelable à l'horizon 2025. La transition s'appuie sur des centrales de production solaire, des systèmes de stockage d'énergie pour optimiser le fonctionnement global de chaque île. Et puis des colis alimentaires et d'hygiène gratuits à Canala. Une distribution a eu lieu ce matin à la mairie pour les bénéficiaires de la carte AMG, carte senior, handicapé ou résident en province nord sur Canala. Cette opération menée par les bénévoles de la société Saint-Vincent de Paul rentre dans le cadre de l'aide alimentaire délivrée par l'État et la province nord. La fin hier à Nouméa de la réunion de la Conférence épiscopale des évêques du Pacifique, la CEPAC. Elle s'était ouverte lundi au Montmou en présence de 15 évêques ou administrateurs d'évêchés dont le siège est vacant et s'est clôturée hier soir par une messe célébrée à la cathédrale de Nouméa. Elle était présidée par Mgr Calvet qui a fait le point sur les travaux de la CEPAC.
On ne fait pas tellement un bilan, mais on fait surtout des étapes. On a eu un rapport long, j'en ai parlé un petit peu dans mon homélie, de Mgr Donoyou qui nous représentait au synode. Il a passé pratiquement un mois à Rome, réfléchir avec des évêques du monde entier, mais pas seulement des évêques, que le pape François avait tenu à ce qu'il y ait des religieux, des religieuses, des laïcs, également un petit nombre de jeunes pour réfléchir sur l'évangélisation et en particulier sur le fait qu'il faut non pas quelquefois avoir davantage de têtes de chefs, mais il faut avoir davantage de personnes qui sont prêtes à servir, qui sont prêtes à marcher ensemble et à partager.
Et notez que la CEPAC a désigné son nouveau président. Il s'agit de Mgr Ryan Jiménez, évêque du diocèse de Chalan-Canoa aux îles Mariannes du Nord. Il succède à Mgr Paul Donoyou, l'évêque de Rarotonga aux îles Cook, dont le mandat avait été prolongé en raison de la crise Covid. L'Amicale des sapeurs-pompiers de Nouméa organise ce soir la troisième édition de la Course des Lumières. Deux parcours seront proposés aux 150 participants inscrits, explique Cédric Maroquin, le trésorier de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Nouméa.
Le principe, c'est juste de prendre un moment sportif et de plaisir à partager ensemble et avec, effectivement, soit avec des guirlandes de lumière, soit avec une frontale, mais histoire de courir de nuit et que ça soit sympathique et folklorique, on va dire. Donc on a deux parcours, un 3 km non chronométré à partir de 12 ans, et après on a un parcours de 5 km chronométré, donc à partir de 16 ans. Et le départ se fait juste après le stand de Amorino à Sainte-Marie, et en gros un demi-tour pour les 5 km qui serait juste après le premier parking de la Pointe Pervernier à l'eau vive, et en hauteur du skatepark pour le 3 km le demi-tour.
Et la course débutera ce soir à 19h à Sainte-Marie. Et puis le jeu vidéo calédonien Tchia en route pour les Game Awards. Ce jeu qui a fait sensation depuis sa sortie en mars dernier est nominé, Iléana, dans la catégorie jeu avec un impact.
Les Game Awards, c'est un peu l'équivalent des Oscars dans les jeux vidéo. Il existe plusieurs catégories et celle où est nommée Tchia célèbre les jeux avec un fort caractère culturel ou social. Tchia, c'est l'histoire d'une jeune fille se retrouvant à évoluer toute seule grâce à ses pouvoirs dans un monde ouvert fortement inspiré de la Nouvelle-Calédonie. En bref, autant dire que la nomination était presque gagnée d'avance. Un honneur qui reste toutefois incroyable pour le Calédonien Philippe Criffaut, cofondateur et directeur créatif du studio Awaseb.
Aujourd'hui, on est hyper reconnaissant pour cette nomination. Mais évidemment, remporter ce prix-là, ce serait encore plus incroyable et symbolique pour ce projet qui nous a mené dans une aventure calédonienne, mais internationale sur plusieurs années. Parce que, comme on le sait tous, les jeux vidéo, ce n'est pas que de la violence et des explosions, mais c'est aussi des belles histoires et des aventures comme celles qu'on a vécues en faisant ce projet-là. Quoi qu'il arrive, on est déjà très très fiers d'être considérés pour une telle reconnaissance. Il y a plus d'un million de joueurs qui ont joué à notre jeu, inspirés par cette culture qui nous est chère. Et cette nomination, c'est déjà une grosse consécration pour nous.
Reste donc à savoir si le jeu remportera le prix dans sa catégorie. Notez que vous pouvez voter sur le site des Game Awards jusqu'au 6 décembre et la cérémonie se tiendra quant à elle le 7 décembre à Los Angeles.
L'actualité dans la région avec ce drame dans l'État australien du New South Wales. Un pompier volontaire est mort alors qu'il combattait un important incendie dans le nord de l'État. Le récit de Jean-Pierre Zajac.
Le drame s'est produit hier après-midi au sud de Walgate, une localité à vocation agricole de 2200 habitants, située à environ 500 km au nord-nord-ouest de Sydney. Alors qu'il y combattait un incendie de forêt, un pompier volontaire, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été tué par la chute d'un arbre. Le sinistre en question est combattu par des centaines de volontaires, épaulés par des hélicoptères et des avions bombardiers d'eau. Il a déjà consumé plus de 22 000 hectares de végétation et détruit ou endommagé un certain nombre de propriétés rurales. Au total, environ 40 000 hectares de forêts et pâturages sont actuellement la proie des flammes, rien que dans le New South Wales. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
On se retrouve dans un instant après une nouvelle pause pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous souhaitez être accompagné dans la création de votre entreprise artisanale? La Chambre de métiers et de l'artisanat vous propose de découvrir le pack Procréateur, un dispositif dédié aux porteurs de projets. 3 à 4 jours pour maîtriser les incontournables, recevoir des conseils pratiques, découvrir les outils de gestion et acquérir toutes les compétences nécessaires à la création de votre entreprise. Un accompagnement personnalisé pour vous aider à démarrer votre activité et mettre toutes les chances de réussite de votre côté. Ne ratez pas cette opportunité et inscrivez-vous en appelant le 28 23 37 ou en vous rendant sur le site www.cma.nc.
Le prochain rendez-vous des aidants se tiendra le lundi 20 novembre dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Le Lions Club et le CCAS vous attendent à partir de 17h30 pour un moment d'échange sur le thème du refus de soins animé par le docteur Valérie Albert-Dunet. Vous êtes aidant? Alors des professionnels pourront vous aider.
La boîte à dons de la province sud, c'est quoi? C'est le point de collecte qui est accessible du lundi au vendredi, de 7h à 18h dans le hall d'accueil du centre administratif de la province sud, Baie de la Moselle. Tous les deux mois, la boîte est mise à disposition d'une association différente. Quelle est l'association actuellement? Quels sont ses besoins? Qui est-elle tout simplement? Tapez province-sud.nc/boîte-a-don au pluriel.
La province sud, agir pour l'avenir.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
L'actualité en métropole avec vous, Jean-François.
Oui, avec cette affaire qui fait beaucoup de bruit, le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, est en garde à vue. Il est accusé d'avoir drogué une députée dans le but de l'agresser sexuellement à Saint-Sébastien-sur-Loire, le village dont il a longtemps été le maire. C'est la stupéfaction. Le reportage et les explications de Charles Guyard pour Europe 1.
Ça nous surprend.
Puis si c'est vrai, c'est choquant.
À Saint-Sébastien-sur-Loire, commune de près de 30 000 habitants au sud de Nantes, c'est la stupéfaction. L'ancien maire Joël Guerriau est soupçonné d'avoir drogué une députée à son insu et pour cet habitant, le choc est d'autant plus violent qu'il connaissait bien celui qui a dirigé la ville pendant plus de 22 ans.
Oui, je l'avais soutenu, oui. Après, la présomption d'innocence, ça existe, hein. C'était un bon maire. Il était proche des gens.
Un maire devenu sénateur de Loire-Atlantique en 2011 qui a donc été placé en garde à vue aujourd'hui à Paris pour administration à une personne à son insu d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle selon le parquet de Paris. La victime serait donc une députée centriste de la même région. C'est elle qui a donné l'alerte après s'être sentie mal. Elle accuse Joël Guerriau d'avoir mis de l'ecstasy dans son verre dans la nuit de mardi à mercredi. Des analyses ont ensuite confirmé la présence de cette drogue dans son organisme. À 66 ans, Joël Guerriau venait d'être élu pour la troisième fois sénateur sous l'étiquette Horizon, le parti d'Édouard Philippe, qui lui avait d'ailleurs apporté son soutien le 5 septembre lors d'une visite à Saint-Sébastien-sur-Loire.
L'Europe prolonge l'autorisation d'utiliser le glyphosate pendant encore 10 ans. L'usage de ce pesticide dans l'agriculture est très contesté. C'est la Commission européenne qui a décidé de cette prolongation alors que les 27 pays membres n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le sujet. La France s'est d'ailleurs abstenue lors du vote à la Commission et l'opposition dénonce la lâcheté du gouvernement. Mais le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, assume cette position neutre car il n'y a pas de solution de remplacement pour l'instant, a dit d'expliquer.
On ne peut pas être dans un régime qui soit en permanence de l'interdiction sans aucune solution. Et partout où on peut réduire les usages, il faut le faire. C'est l'intérêt de tous, des agriculteurs et de nous tous collectivement. Et c'est le chemin qu'on continuera à suivre sur le glyphosate. Sur le glyphosate, les agriculteurs, par leurs efforts, ils ont réduit de 27% l'utilisation du glyphosate. On ne va pas renoncer à ce qu'on a réussi à faire, à cet acquis. On a tout intérêt à valoriser et à continuer à valoriser ces efforts sous la réserve qu'ils ne viennent pas, ce qu'on a essayé de faire, entraver la compétitivité de la ferme France. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un schéma noir ou blanc, c'est interdiction ou pas, c'est réduction des usages là où on n'a pas d'alternative.
Marc Fesneau lors d'un déplacement dans les Côtes d'Armor. L'actualité en métropole, c'est aussi la fin du procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. Le ministre de la Justice en exercice comparaissait pour prise illégale d'intérêt, accusé d'avoir diligenté des enquêtes administratives à l'encontre de magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Le ministère public a requis un an de prison avec sursis hier, mais ses avocats, lors de la dernière audience, ont plaidé la relaxe. Jacques Serret pour Europe 1.
Dans la salle d'audience, l'ex-ténor du barreau ne se fait pas le défenseur de lui-même. Éric Dupond-Moretti, l'ogre des prétoires, confie la délicate mission à deux avocats chevronnés, maître Rémi Laurin et maître Jacqueline Lafont. Le premier s'installe à la barre, le visage concentré. Une prise illégale d'intérêt s'est portée atteinte à l'administration publique, explique-t-il. Mais le ministre n'a fait que la suivre, cette administration. Quant à la thèse de la vengeance, elle ne tient pas une seule seconde, lance le pénaliste, avant de cibler les syndicats de magistrats. Plaignant dans cette affaire. On est passé du mur des cons au mur des conflits d'intérêts. Avant, ils épinglaient les visages de ceux qu'ils n'aimaient pas. Maintenant, ils réclament leur tête. Du délit de sale gueule, on est passé au délit de grande gueule. Silence dans la salle. Sur sa chaise, Éric Dupond-Moretti retrouve le sourire. Maître Jacqueline Lafont prend le relais. On peut tourner ce dossier dans tous les sens. Cette poursuite de prise illégale d'intérêts ne tient pas. Je vous demande de le relaxer. Après 4h30 de plaidoirie, le ministre est invité à s'exprimer en dernier. « Je n'ai rien à ajouter », conclut-il. La décision sera rendue le 29 novembre.
Un mot de l'actualité à l'étranger avec la poursuite des opérations militaires de Tsahal à Gaza. Les combats se poursuivent dans l'hôpital Al-Shifa qui serait le centre de commandement militaire du Hamas. Dans un immeuble voisin, les soldats ont découvert le corps sans vie d'une otage. Il s'agit d'une femme de 64 ans, originaire du kibboutz Berry, attaquée le 7 octobre par les terroristes. Son mari avait été tué dans cette attaque. Selon Tsahal, cet otage aurait été exécuté. Il est 11h57, la dernière page de ce journal. On se retrouve pour l'actualité sportive et notamment les premières compétitions pour les Calédoniens aux Jeux du Pacifique.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La Province Sud, en partenariat avec l'ADEME, vous donne rendez-vous du 2 au 29 novembre pour les semaines de la réduction des déchets sur le thème des emballages alimentaires. De nombreuses communes de la Province Sud y participent. Plus d'infos sur le site web de la Province Sud.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Medical Partner, le spécialiste calédonien pour le matériel d'aide à la personne, vous annonce un arrivage de fauteuils releveurs d'Invacare. Attention, passez commande avant Noël, arrivage limité. Appelez vite au 24 70 23 ou passez aux 3 rue Georgette Mourin chez Medical Partner. Dis donc, tu joues, toi, sur RRB au 40-20 par SMS ?
Pas souvent. Pourquoi ?
Bah, parce que tu devrais. Tiens-toi bien, depuis début juin, 4,3 millions de bons d'achat ont été gagnés. Et il y a déjà 3 millionnaires.
Ah ouais.
Eh ouais.
Alors envoyez RRB au 40-20. 371 francs par SMS. Règlement et conditions de remboursement disponibles sur demande à l'accueil de la radio. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a que des auditeurs heureux.
Eh ouais. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et sans plus attendre, direction Onira.
Sur RRB, vibrez au rythme des Jeux du Pacifique avec CIPAC, sponsor officiel des Cagous.
Ils attendent ça depuis des semaines, voire des mois. Le début des compétitions aux Jeux du Pacifique pour les athlètes calédoniens. Les joueurs de tennis sont les premiers à faire leur entrée en lice sous la chaleur des îles Salomon, Morgane Boucher.
Il fait très chaud ici sur les cours d'Oniara depuis ce matin. La légère brise ne suffit pas à rafraîchir l'air. Une chaleur qui est démultipliée avec la réverbération du sol. C'est Luam Boivin qui en a fait les frais, si j'ose dire, pour le début de l'épreuve par équipe. Le jeune calédonien qui est arrivé seulement hier à Oniara n'a pas pu s'acclimater à la chaleur. Lui qui vient des États-Unis où il fait 0 degré actuellement. Il a été victime de crampes, mais il a tout donné pour finalement l'emporter au bout du suspense.
Franchement, j'ai tout donné sur le terrain. Quand je joue, je pense à mes coéquipiers, tout le monde, toute la délégation qui nous supporte. Je suis super content de m'en être sorti avec... cette condition physique. Ça s'est joué seulement dans la tête ce match parce que j'ai vraiment un gros choc thermique entre là où j'habite aux États-Unis, on était à aux alentours de 0 degré et là on est à au moins 30 avec une très très grosse humidité donc c'est très très dur. et je suis juste très content d'avoir remporté la rencontre.
Et en ce moment, c'est Ereman Akurt qui est sur le court pour le deuxième match par équipe. Les jeux sont donc bien lancés, se réjouit Marion Roumagne, le président de la commission des jeux au CTOS.
Premier Calédonien à démarrer les jeux, c'est quand même un petit événement pour nous. C'est pour ça qu'on a tous les principaux qui sont là, le président, le chef de mission. Donc il faut qu'on le soutienne. Être le premier Calédonien, je ne crois pas que ça soit quand même ça. Il y a une petite pression supplémentaire, je pense, pour l'OAM.
Cet après-midi, place au sport collectif. La sélection féminine de football affrontera les îles Cook à 16h. Les Calédoniennes se sont un peu entraînées hier midi, mais la séance a été écourtée à cause de la chaleur. Ce matin, elles ont réalisé un léger réveil musculaire. Et puis à 17h également aujourd'hui, les volleyeurs joueront contre Samoa. À Honiara pour les Jeux du Pacifique, Morgane Bouchet, Radio Rythme Bleu.
Merci Morgane. Les nageurs calédoniens rejoindront les îles Salomon demain. Hier après-midi, c'était leur avant-dernier entraînement avant leur envol et ils ont pu se retrouver dans les bassins pour peaufiner les détails techniques avec des exercices adaptés. Théo Cochel est le directeur sportif du CNC, c'est aussi le coach de la sélection.
Ça y est, là, tous les athlètes sont réunis sur le territoire. On a pu faire des entraînements en commun et ça, c'est vraiment génial pour la cohésion de groupe. Maintenant, là, voilà, on est dans la dernière semaine, la semaine d'affûtage, d'affinage, de peaufinage même pour tout ce qui est aspect technique. Et voilà, on essaie de millimétrer au maximum tous les paramètres pour être le plus efficace possible lors de la compétition. Alors, il y a deux thèmes. Il y en a certains, vu qu'ils font du long, on est sur un maintien de l'effort quand même pour pas perdre en énergie. Et après, il y a les autres, plus les sprinteurs où ils ont un besoin de plus d'affûtage, de repos et vraiment quelques sprints pour affiner et partir sur des bonnes bases pour les joueurs.
Et sur les 16 nageurs qui porteront les couleurs calédoniennes, certains sont des habitués de la compétition, mais d'autres vivront cette expérience pour la première fois. Dans les deux cas, le groupe affiche une confiance générale envers les performances de chacun.
Les sensations sont bonnes. À chaque fois que je me mets dans l'eau compète, ça perf pas mal, donc c'est le principal. Les plus gros adversaires, à la limite, c'est dans notre équipe, donc ça fait plaisir pour la Calédonie parce qu'on sait qu'on ramenait pas mal de médailles. Voilà, moi j'espère faire au mieux, aller chercher pourquoi pas une médaille d'or, on verra, et puis surtout me faire plaisir dans les relais derrière.
Ce sera ma deuxième fois. Je me fais confiance et je sais qu'avec l'adrénaline, je vais vite me retrouver mes sensations et tout dans l'eau.
Oui, c'est la première fois. Là, je pense que ça va être une belle expérience. On va pouvoir se comparer à d'autres nations là, du Pacifique. Je me suis entraîné dur pour y arriver. Ouais, y participer, ça va être cool, quoi.
Et les objectifs sont ambitieux puisque les nageurs calédoniens espèrent 27 médailles d'or. Ce sont les Tahitiens qui seront leurs principaux rivaux.
Sur RRB, vibrez au rythme des Jeux du Pacifique avec CIPAC, sponsor officiel des Cagous.
Depuis 2011, le groupe CIPAC s'engage dans le sport. Célébrons ensemble la passion du sport. Tous Cagous, avec CIPAC.
Les Jeux du Pacifique, c'est aussi l'objet de notre question du jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la voici cette question. Pensez-vous que la Nouvelle-Calédonie va remporter les 17e Jeux du Pacifique qui vont s'ouvrir à Honiara? Si vous pensez que la Calédonie va les remporter, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que les divisions au sein du FLNKS vont s'aggraver. Ils ne sont que 9% à penser que le FLNKS va se refonder. Allez, retour au sport en bref, en de paddle, le Calédonien Noïc Gariou a remporté son deuxième titre de champion du monde en sprint. Un retour gagnant sur 200 mètres après ses blessures au genou. Il participe avec trois autres Calédoniens au championnat du monde à Pattaya. Aujourd'hui, place à la distance et demain et après-demain à la Technical Race. En Indonésie, les jeunes Cagous joueront leur dernier match du groupe de Coupe du Monde des U17, c'est du football. Ils joueront face à l'Iran qui a été tombeur du Brésil lors du match d'ouverture. Enfin en tennis, nouvelle confrontation dans le Masters de Turin. Tout d'abord, Novak Djokovic s'est imposé en 3-7 sur Hubert Hugzak. Puis l'Italien Yannick Sinner, déjà qualifié pour les demi, s'est défait du piège de Holger Rune. Le succès de l'Italien permet au numéro 1 mondial Djokovic de se qualifier lui aussi pour le dernier carré de la compétition.